C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Très bien. Avec les commissaires, ce matin, on va parler du processus de sélection, de recrutement pour le prochain chef, la prochaine chef de police à Montréal. C'est un processus quand même qui prévoit une consultation publique, il y a un profil. On a eu hier quelques éléments qui ont coulé des critères. Et donc, la question ce matin, à quoi doit ressembler le prochain chef de police de la ville de Montréal? C'est Luc qui commence.
Ben, comme toutes les autres fois où on a engagé un chef de police, ça devrait être exactement le même cahier de charge. Il n'y a rien qui a changé. Et je les ai lus, les cahiers de charge. J'étais sur le comité de sélection de Marc Parent. Et c'est très, très bien fait. Donc, c'est... il doit faire un juste usage de la force, capacité de mobilisation, capacité de communication, compréhension des problèmes sociaux, capacité de travail avec les autres organismes de la société qui interviennent auprès des marginalisés, groupes communautaires, etc. Capacité de gestion à l'interne, parce que on se rappelle que Pichet avait aboli la division interne puis des affaires intérieures, puis qui s'appelle pas comme ça d'ailleurs, mais en tout cas les affaires qui gèrent la police. Et ça a été remis en place parce qu'il y a souvent des gangs qui se créent, etc. Au sein de la police, pas des gangs de rue, là, des groupes d'allégeance.
J'allais dire, quand tu vois les changements de régime, tu as ce qu'on appelle la gendarmerie puis les enquêtes.
Oui, c'est ça.
Fait que quand le boss est issu des enquêtes, c'est moins bon pour la gendarmerie, puis l'inverse aussi. Là.
C'est ça. Alors, être capable de faire travailler tout ce monde-là ensemble. Il y a plusieurs chefs qui sont arrivés. Delorme est arrivé. Parent y est arrivé. En bout de ligne, c'est la mairesse qui va décider. Alors, tout ça, c'est comme une sorte d'écran de fumée pour dire « oui, 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 on consulte tout le monde ». Mais et c'est pas un écran de fumée inutile, mais c'est un écran de fumée parce que le cahier de charge est déjà quasiment écrit à 99%. Là, ça, la consultation n'a rien changé dans le cahier de charge. Puis la deuxième chose, les entrevues vont être faites par un groupe qui est constitué de deux gestionnaires à l'interne, le directeur général de la ville, sans doute le directeur des ressources humaines, plus trois élus. Et puis finalement, c'est la mairesse en bout de ligne, on va lui soumettre deux noms, puis elle va décider, puis elle va sans doute prendre Mme Roy, là. Je veux dire, je pense que c'est à peu près ça que ça en vient. Alors pourquoi on fait tout ça autour? Pourquoi on parle de consultation, puis il y a eu plusieurs groupes qui ont été consultés? Ben c'est la même tendance qu'il y a un peu partout en Amérique du Nord, y compris aux États-Unis. Aux États-Unis, les shérifs sont élus par la population. C'est de dire aux gens, vous avez votre mot à dire. Parce que la population est divisée en deux grands groupes à peu près, plus que deux, mais on va les résumer à deux. D'une part, les gens qui ont très très peur que la police fasse un usage abusif de la force, ne comprennent pas les groupes sociaux, ne comprennent pas les marginaux, ne comprennent pas surtout les marginaux criminalisés, donc souvent les groupes, les communautés noires, espagnoles, musulmans, arabes, etc. Et ça, c'est un gros groupe. Pas non plus assez de représentation des femmes. Et l'autre groupe, qu'il n'y ait pas assez d'usage de la force, que la police soit rendue affaiblie par justement toutes ces nouvelles valeurs-là, incapable d'intervenir en cas de violence, désengagement de la police.
Nathalie.
Lorsque tu affirmes là qu'il n'y a rien qui a changé, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Aujourd'hui, en 2022, les policiers au SPVM, on sent qu'ils ont le moral un peu dans les talons. Il y a énormément de tensions au sein des troupes, liées entre autres à l'enjeu du profilage racial. Pour ce qui est de la démarche de la ville, moi j'étais sceptique, là, un peu comme toi, Luc, mais je me rends compte que c'est un nouveau style de leadership. C'est un nouveau leadership qui s'exerce à l'échelle municipale, qui est celle d'impliquer le plus possible les citoyens en amont des décisions. Mais t'as raison. Sur le fond des choses, le chef de police de la Ville de Montréal va continuer d'être nommé par le Conseil des ministres sur recommandation du Comité de sécurité publique de la Ville de Montréal. Mais sur les qualités de ce futur chef de police, je pense que ça prend un ou une chef de police à l'image de ce qu'est la société montréalaise en 2022. Au-delà des qualités de communicateur. Et la communication, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que dans le dossier de la violence armée, le politique a pris beaucoup trop de place par rapport aux policiers. Et je pense qu'un chef de police, dans le contexte actuel où le sentiment de sécurité est effrité, devra davantage parler aux citoyens. Parce que la mairesse Valérie Plante, avec toute la bonne volonté qu'on lui connaît, à elle seule ne peut pas sécuriser la population. Pourquoi? Parce que on ne lui reconnaît pas l'expertise d'un chef de police, par exemple, pour ce qui est des enjeux liés à la sécurité. Ça, c'est une chose bilingue, évidemment. Pour ce qui est des communautés culturelles et communautés sur l'île de Montréal, ça va prendre un chef qui n'aura pas de préjugés, qui est perçu comme quelqu'un qui n'a pas de préjugés. Ça va prendre un chef également pour qui l'image, ce n'est pas important. Son image, ce n'est pas important. C'est quelqu'un qui va devoir faire face au vent d'est lorsqu'il va arriver sans se soucier des impacts, effectivement, sur son image. Moi, je trouve que c'est fondamental. L'autre chose, ben, ça va prendre un chef de police qui est capable de composer avec le politique, évidemment, mais avec les groupes communautaires sur le terrain. On décrit tout ce profil-là. Là, tu parlais de gendarmerie et, de, et d'enquête. Mais ça va prendre un chef de police qui sait conserver cette complicité avec la fraternité des policiers, parce que on peut bien critiquer Francoeur, qui est le chef du syndicat de police, sauf qu'il y a quand même encore énormément d'autorité et de crédibilité pour les troupes sur le terrain. Alors, ça prend presque un chef parfait. Savez-vous à qui j'ai pensé, moi, en lisant l'article en question? Le nom qui m'est venu en tête? Ben, Fadi Daguerre. Fadi Daguerre, parce que tu lis ça, tu dis, waouh, là, vous allez me dire, Nathalie, il est à Longueuil. Je le sais, il est à Longueuil. Il est bien payé.
Pas bien loin.
C'est pas bien loin. Je voyais la chef par intérim, Mme Roy, qui dit, ben, après avoir hésité, dû nous laisser entendre qu'elle n'était pas intéressée, elle lève la main. Moi, j'ai envie de vous dire ceci. Ne pénalisons pas de bonnes candidatures masculines parce qu'il y a une femme qui lève la main. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui.
Il faut pas faire de discrimination. Sa candidature est extraordinaire, je n'en doute point, mais il ne faudrait pas dire à tout prix ça prend une femme ou à tout prix ça prend un chef issu de la diversité. Vous comprenez? Alors, dans ce sens-là, c'est un beau test pour l'administration qui est en place, parce que il faut que ce chef-là arrive puis diminue la tension qui existe, puis crée redonne espoir aux Montréalais que cette ville-là est en train de sombrer. Là.
Fadi Daguerre, t'as raison, c'est une excellente candidature. Puis on se rappelle que Fadi Daguerre, il avait été dans les candidats à l'administration de avant Caron. Caron, d'ailleurs, un excellent chef de police.
Oui, absolument.
Donc, à l'époque où ça a été Pichet qui a été nommé, Fadi Daguerre était sur les rangs et presque nommé. Et puis là, c'est passé au bureau du maire, puis le maire s'est dit, le maire a choisi. Et a choisi Pichet. On n'a jamais su pourquoi. Moi, je pense que M. Daguerre a une grande personnalité, une forte personnalité. Je pense que peut-être que M. Coderre s'attendait à dire, regarde, c'est moi le boss, tu vas faire ça. Puis il s'est dit, avec Daguerre, ça marchera peut-être pas si bien que ça. Mes ordres ne passeront pas aussi bien que ça. Peut-être, je sais pas. Peut-être que c'est ça, je spécule. Mais en tout cas, je connais la personnalité de Daguerre, je connais la personnalité de Coderre, puis je me dis, Coderre aurait peut-être pris ombrage. Et c'est dommage, parce que ce qu'il a réussi à faire à Longueuil, tu sais, le mix, parce que quand tu l'interviews, là, premièrement, il est très fort sur la compréhension de le bouillon de culture qui génère de la violence, et la santé mentale, la pauvreté, etc. Puis lui aussi, il dit tout le temps, on n'est jamais criminel à temps plein. Donc, il sait qu'on est capable de faire de la réintégration, de la réinsertion. Donc, il comprend tout ça. Puis en même temps, il comprend la force. Tu sais, il a été aux stupéfiants, il a été aux enquêtes, et quand je lui ai parlé récemment, d'ailleurs, il me disait, non, quand ils sont rendus à utiliser des guns, on n'est plus dans, ben là, on va vous ouvrir des clubs de basketball. Là. Non, les guns, c'est la coercition. Rendu là, c'est la coercition. Fait qu'il comprend les deux pôles de l'action.
Mais il y a une compréhension juste des enjeux, puis soulève un point fondamental. En fait, un chef de police qui ne portera pas ombrage à la mairesse, mais je pense que la mairesse doit accepter un chef de police avec une personnalité forte. On s'attend à ça de la Ville de Montréal. Tu dis non, j'espère que la mairesse va mettre de côté
ses
problèmes d'égo. Je sais pas comment dire ça,
là,
mais...
L'enjeu, c'est que, tu sais, des fois, t'as... mettons, Coderre, tu dis ça, c'est pour l'ordre, c'est le shérif, puis tu sais, c'est ça l'image. Madame Plante, auprès des policiers, ça passe pas très bien.
Ben...
Donc... Tu sais, elle a intérêt à ce que le chef de police prenne de la place pour, disons, ramener un certain climat puis un certain leadership, parce que c'est pas elle qui va l'amener, là, ça c'est clair. Je suis
tout à fait d'accord avec toi.
Peut-être que les conversations qui vont avoir lieu autour de la nomination du chef de police vont l'influencer, les conversations publiques vont l'influencer, dans le sens où ce qu'on est en train de dire là, puisque d'autres personnes disent là, faites méfiez-vous de nommer encore quelqu'un qui est exactement votre représentation, votre miroir.
Mais
pour l'instant, tu regardes les nominations qu'elle a faites, là. Présidente du comité exécutif, directrice de l'OMH, directrice de l'Office de consultation publique, directrice du parc Jean-Drapeau, responsable de l'eau, responsable des infrastructures, toutes des femmes.
Ouais, mais politiquement, elle va gagner à avoir un chef de police très fort, compétent, qui fait l'unanimité, qui va réussir à redonner ce sentiment de confiance. Et hier, je voyais sur le site de Radio-Canada, le chef de police d'Ottawa, qui, lui, consulte les groupes communautaires pour définir ce que c'est un féminicide, pour améliorer les communications puis la perception et le travail de ces policiers sur le terrain. Ça, c'est une nouvelle façon de travailler en 2022.
Il faut absolument dire une chose en terminant. C'est pas parce que elle ne devrait pas nommer Sophie Roy, que Sophie Roy ne devrait pas gagner. C'est parce que Sophie Roy a peut-être aussi des compétences pour...
Mais aller sur les rangs, on va passer toutes les entrevues,
Je veux juste dire qu'il ne faudrait pas l'écarter parce que ça donnerait l'image d'une mairesse qui a nommé une femme puis qui correspond exactement à ses valeurs. Il ne faudrait pas l'écarter pour cette raison-là.
Au retour, Éric Duhaime est-il le Trump québécois? En tout cas, il veut faire un mur.
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, alors, est-ce que Éric Duhaime et le Donald Trump du Québec, en tout cas, hier, semé encore la confusion, la controverse en parlant de créer un mur, de construire un mur le long de la frontière canado-américaine.
Hey, come on! Non, mais franchement, François Legault qui traite Éric Duhaime de Donald Trump, j'ai envie de vous dire, Monsieur Legault, laissez de côté vos gros mots. Le chef de la CAQ a poussé, selon moi, un peu trop fort sur le bouchon. Rappelez-vous, là, les deux adversaires de la campagne de François Legault, qui sont-ils? Le woke solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, et le Trump conservateur, Éric Duhaime. Alors, en politique, là, c'est une règle élémentaire qui est celle de dessiner, de dépeindre, de démoniser ton adversaire. C'est exactement ce que François Legault a tenté de faire hier. Tant qu'à moi, c'est une tentative ratée. Pourquoi? Parce que ceux qui n'aiment pas Éric Duhaime vont probablement être d'accord avec le premier ministre, avec le chef de la CAQ, puis n'auront pas voté pour Éric Duhaime. Puis ceux qui sont d'accord avec les militants, les soutiens d'Éric Duhaime, eux sont déjà très mobilisés, puis Donald Trump ou pas, ils vont aller voter, puis ils vont voter pour Éric Duhaime. Mais honnêtement, c'est facile. Monsieur Legault utilisait la voie de la facilité. Mais si on décortique un peu là, la comparaison, est-ce que Éric Duhaime est une menace pour nos institutions? Moi, je pense pas. Est-ce qu'Éric Duhaime mobilise ses soutiens pour contourner les médias traditionnels? Je crois pas. Puis entre nous, quelle est l'influence d'un Éric Duhaime sur la politique américaine en matière d'immigration pour ce qui est de la construction d'un mur ou non? Franchement.
Mais moi, je pense que Duhaime n'est pas dangereux parce qu'il n'a aucune chance d'être élu. Mais si jamais il avait une chance d'être élu, il faudrait regarder un petit peu plus son programme. Puis d'ailleurs, à la presse, ils lui ont posé pas mal de questions, puis il se rendait compte qu'il n'y avait rien. Il n'était pas capable de répondre. Il y a un article de Paul Journet là-dessus, là, où à peu près toutes les propositions qu'il faisait étaient creuses. Fait que parce que et non documenté, c'est-à-dire il savait pas quand il disait qu'il allait mettre le privé en santé, il savait pas où, quand, comment, par où il allait commencer, combien ça allait coûter. Il savait pas non plus quand il disait que les parents allaient recevoir 200$ par enfant comme crédit plutôt qu'un régime de CPE. Il savait pas comment il allait faire ça, puis si ça équivalait à la somme nécessaire pour financer un système de santé. Il était pas au courant. Il est pas au courant non plus quand il a déclaré qu'il allait avoir 5 000, il allait couper 5 000 fonctionnaires, puis ça allait financer son programme. Écoute, 5 000 fonctionnaires, ça va te rapporter 360 millions à peu près. Il y a deux ans, c'était 360 millions. Mais là, mettons à 380 millions. Puis le budget de l'État, c'est 145 milliards. Il y a quelque chose que tu nous as pas expliqué, là. Comment tu vas faire pour financer, là? Ça marche pas, là. Et, donc, il y a pas mal, alors, tu vas prendre les redevances du pétrole puis du gaz. Le pétrole puis du gaz nous a toujours coûté de l'argent au Québec parce qu'il y a un financement au forage, il y a un financement, au développement, à la recherche et développement. Quand bien même que tu irais chercher une couple de centaines de millions, tu vas faire quoi? Donc, il est pas dangereux, parce qu'il dit,
Il n'est pas dangereux, mais il est dangereux pour la CAQ à Québec, entre autres dans trois comtés, oui. La grande région de Québec. L'autre chose, je me permets, mon cher Luc, lorsque tu dis si Éric Duhaime est élu, ça risque d'être dangereux. Ben moi, j'ai envie de te dire, si un Québec solidaire, un Gabriel Nadeau-Dubois devenait premier ministre demain matin, moi, je pense aussi que ce serait dangereux. Pourquoi la dangerosité toujours associée aux partis de droite, alors qu'il y a des partis de gauche qui peuvent effectivement représenter une menace? C'est un mot un peu trop fort,
mais qu'on aime
Gabriel,
qu'on l'aime ou pas, Gabriel Nadeau-Dubois, qu'on l'aime ou pas, il a fait un cadre financier, il a chiffré et il a pas juste chiffré, il a soumis ses chiffres à des bureaux comptables qui ont reconnu que c'était les bons chiffres.
Oui,
c'est une grosse différence, ça.
Oui, je suis d'accord avec toi, le cadre financier d'Éric Duhaime manquait de maturité, mais cette espèce de
il manquait de crédibilité.
Bon, ça va, on s'entend que les fils n'étaient pas tout attachés, puis ça, on fait plus dans la simplicité que dans la comptabilité, je suis d'accord avec toi. Sauf que dans le cas au Québec, on a cette propension à toujours associer le danger à la droite. Alors, je sais pas, peut-être notre réflexe de gauche, là, qui, la gauche est parfait, la gauche progressiste. Mais
c'est-à-dire qu'ils ont un point commun tous les deux.
Oui, lequel?
Ils ont une plateforme électorale, puis ils ont un programme. Et il y a des différences entre les deux. Quand tu prends le programme de Québec solidaire, c'est pas ce qu'on retrouve dans la plateforme au complet, c'est pas du copier-coller, là. Et dans le cas d'Éric Duhaime, quand il est venu, je lui ai posé la même question, je lui ai dit, allez-vous faire ça, ça? Si vous êtes un vrai libertarien, c'est ce que vous pensez, puis il dit, c'est pas dans notre plateforme. Tu sais, fait que tu dis aux Québécois, votez pour moi, ça c'est ma plateforme. Ce que tu dis pas aux Québécois, voici ce que j'ai en arrière de la tête. Puis si j'ai ça, tu sais, je pourrais vous en passer deux trois là. Tu sais, sur le désarmement des policiers, sur le rôle de l'État dans les fonds de pension. Tu sais, on n'en parle pas fort de ça.
C'est vrai que le programme de Québec solidaire, c'est un programme qui est défini par la base, par l'Assemblée. Puis après ça, la plateforme, c'est ce qui est proposé pour les 4 ans qui s'en viennent. Alors, je m'appuie sur les 4 ans qui s'en viennent. Puis dans les 4 ans qui s'en viennent, le plan environnemental, le cadre financier, les projets de loi sont quasiment, tu sais, c'est élaboré. Tandis que ce que Duhaime propose, c'est flou au point où il est même pas capable d'en parler plus qu'une minute, là. Il arrive en onde, on lui donne le micro, on l'invite à une réunion éditoriale. La presse l'a invité à une réunion éditoriale cette semaine. On était à la fin de la campagne. Il devrait être capable de chiffrer, il devrait être capable de, au moins, verbaliser.
Ouais. Son cadre de référence met en lumière le fait que le Parti conservateur du Québec est un jeune parti, avec peu d'expérience. Puis je pense que, d'une certaine façon, Éric Duhaime est dépassé par les événements, par la croissance de sa formation politique. Écoutez, il a réussi à récolter 3 millions de dollars. Il y a plus de 50 000 membres. C'est le seul chef de parti durant cette présente campagne qui a fait deux grands rassemblements militants. Là. 3 000 personnes, 3 000 militants dans un premier temps, 1 500 dans le cadre de son deuxième rassemblement. Là où politiquement, Éric Duhaime est à la bonne place, c'est lorsqu'on parle d'immigration, là, bon, il y a l'histoire-là de Mur. Il a fait une déclaration en 2017 à la radio, puis il n'a pas repoussé du revers de la main cette option-là hier lorsqu'il a été questionné par un journaliste. C'est sur le chemin Roxham. Lorsqu'Éric Duhaime dit il faut fermer le chemin Roxham, il s'est indigné de voir que le gouvernement fédéral a investi 500 millions de dollars pour le chemin Roxham. Politiquement, il y a beaucoup de Québécois qui pensent comme lui. Je ne dis pas que tous les Québécois qui pensent comme lui vont voter pour lui, mais politiquement, quand même, il faut admettre
qu'il proposait un mur de combien de kilomètres? Il a dit, mettons que ça irait jusqu'à 100 kilomètres, OK? Tu proposes un mur qui fait 100 kilomètres, ça coûterait tant. D'ailleurs, le chiffre, c'était risible. C'était
complètement 100 kilomètres, quand tu connais la...
Fait que là, tu dis, OK, je vais aller juste au 101e
kilomètre. Je vais me prendre un VTT, comme je vais pouvoir aller plus vite. Je vais pouvoir contourner le mur.
Mais tu sais, Nathalie, là, l'image est importante. Tu dis, les fils ne sont pas tous attachés. Moi, j'aurais une autre image. Je dirais plutôt que c'est des bottes de ski qui ne sont pas attachées, puis il s'en va sur un saut à ski. Là. Fait que là, lui, ses skis vont aller d'un bord, puis il va voler dans l'autre direction. Il est vraiment pas prêt.
Les sondages confirment que il plafonne. Sauf que si vous regardez Chauveau, Beauce-Nord, Beauce-Sud, là, trois comtés où c'est féroce, la lutte est très féroce. Et ce que le monsieur Legault n'a pas apprécié d'Éric Duhaime, c'est de se faire talonner par lui sur l'enjeu du troisième lien. Les études, pas d'études, études des études, peut-être des études.
Mais là, on a compris ce matin que études ou pas, ça va se faire.
Ouais. Ouais, mais ça, c'est écrit dans le ciel.
Mais c'est Éric Duhaime qui l'a talonné, qui l'a questionné, qui l'a acculé au pied du mur, qui a fait en sorte qu'on a fini par savoir qu'il n'y avait pas d'études sur le scénario actuel de la CAQ.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Tu sais, il y a quelques déclarations de Duhaime, on n'a pas le temps d'en parler, là, mais...
Ouais, bon, je t'en donne une.
OK. Quand tu as dit à la population qu'il fallait encourager le gym de Québec. Allez-y donc. Écoute, mot pour mot, là, je l'invente pas. Là. Allez-y au gym de Québec. Enfin, quelqu'un qui se tient debout. 700 infections, 10 morts. Est-ce qu'il y a une imputabilité, ce gars-là? Est-ce qu'il a dit à un moment donné, je m'ai trompé?
Il l'a échappé.
Ouais.
Bon, on va aller à la pause avec ça. Merci. T'en regarderas pour demain.
Ouais.
C'est 23.